France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Soyez les bienvenus sur Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 13 février. Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Patrick Balkany libéré après 5 mois de prison. Décision hier de la Cour d'appel de Paris en raison de son état de santé. Tous les détails, Laurence, après les autres titres.
La réforme des retraites à Matignon ce matin. Syndicat, patronat, Premier ministre, autour des volets pénibilité et emploi des seniors. Ils avaient contracté le coronavirus de D11. Patients infectés en France sont sortis de l'hôpital, ils vont bien. Abasourdi après une aqua alta historique, Venise sort la tête de l'eau. Nous irons dans la crypte de la basilique Saint-Marc tout à l'heure.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
L'effet maternel est un livre qui questionne, qui bouscule l'idéologie de mai 68. À travers son histoire compliquée avec des parents 68ards, la documentariste Virginie Linhart interroge la question de la transmission mère-fille. C'est passionnant. Elle sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure. Et puis à 8h20, Léa, nous recevons dans le grand entretien de la matinale le président du parti Les Républicains. J'ai nommé Christian Jacob. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Patrick Balkany a dormi chez lui cette nuit dans sa maison de Giverny. Après 5 mois à la prison de la santé, la Cour d'appel de Paris l'a remis en liberté hier soir au regard de son état de santé. Le maire de Levallois-Perret sortait quelques heures plus tard.
Je suis très fatigué, je suis anémié, j'arrive pas à marcher. Ça a été dur à en prison et ça a été presque encore plus dur à l'hôpital parce que j'ai passé 5 semaines à l'hosto sans sortir du tout, alors qu'au moins en cellule je pouvais ouvrir ma fenêtre et je pouvais aussi faire de la bouffe, ce qui n'est pas plus mal. Et puis pendant 5 semaines j'étais nourri par perfusion, c'est dur. Voilà, en tout cas je veux dire que la prison c'est pas fait pour les vieux. Hein.
Patrick Balkany au micro de CNews. Il pourra peut-être encore ouvrir sa fenêtre en prison, car il n'est pas exclu qu'il y retourne. En première instance, Patrick Balkany avait été condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale, 5 ans pour blanchiment, 10 ans d'inéligibilité. Il attend maintenant l'issue de ses procès en appel. Charlotte Piret.
C'est un contrôle judiciaire très allégé dont bénéficie Patrick Balkany dans le cadre de sa libération. Exit la caution de 500 000 euros et l'interdiction de se rendre en Île-de-France qui avait été initialement ordonnée. Cette fois, outre l'obligation de fixer sa résidence dans son moulin de Giverny et l'interdiction de quitter la France, le maire de Levallois-Perret est libre de ses mouvements, voire même en théorie du moins, de reprendre ses fonctions. Seul impératif, celui de se rendre tous les 15 jours à la gendarmerie. C'est donc une décision très favorable à Patrick Balkany qui a rendu hier la Cour d'appel de Paris. Décision justifiée par l'état de santé du septuagénaire, état alarmant selon une expertise médicale qui avait été ordonnée par la Cour et qui évoquait le risque de voir le pronostic vital de Patrick Balkany engagé si sa détention perdurait au-delà de quelques semaines. Le baron des Hauts-de-Seine va donc pouvoir se reposer auprès de ses proches, comme l'a précisé son avocat, et bénéficier de soins adaptés, au moins jusqu'au prononcé des 2 délibérés attendus dans le cadre de ses procès en appel pour fraude fiscale et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Ce sera les 4 mars et 22 avril prochains.
Charlotte Piret, selon sa femme Isabelle, première adjointe de Levallois, Patrick Balkany ne devrait pas assister ce soir au dernier conseil municipal. Le couple a annoncé qu'il ne se représentait pas aux prochaines élections.
Il est 7h04, la réforme des retraites, Laurence, et un nouveau test ce matin pour le Premier ministre.
Édouard Philippe reçoit dans 1 heure les partenaires sociaux pour faire le point sur les avancées mais aussi les blocages avancés sur l'emploi des seniors. Blocage, la négociation sur la pénibilité. Travailler plus longtemps, certes, mais faut-il encore être en état de le faire? Les syndicats souhaitent que les métiers pénibles donnent lieu à un départ anticipé en retraite. Hélène Filly.
On sait déjà que la CFDT n'obtiendra pas le retour des 4 critères de pénibilité disparus en 2017, posture pénible, charge lourde notamment. Le syndicat en a fait son deuil, mais une meilleure prise en compte est tout de même possible, non pas en regardant les situations individuellement, le patronat estime que c'est une usine à gaz, mais en dressant une liste de métiers jugés pénibles au niveau de la branche et qui donneraient droit à des départs anticipés. Les distributeurs de boissons ont déjà négocié un accord de ce type, mais ce sont les seuls. Et puis les départs anticipés ne peuvent pas être la seule réponse. Il doit aussi être question de prévention, d'amélioration des conditions de travail en amont et de reconversion. Une formation de 6 mois payée 100% du salaire est sur la table. Les seuils vont être revus pour le travail de nuit notamment et le gouvernement se dit ouvert à la prise en compte de la polyexposition qui concerne un salarié en dessous de tous les seuils mais exposé à plusieurs facteurs de pénibilité.
C'est l'une des principales nouveautés du bac, le grand oral. Le détail de l'épreuve est précisé ce matin dans 20 minutes par le le ministre Jean-Michel Blanquer, un oral de 20 minutes, dont 5 minutes d'argumentation sans note, sur une spécialité choisie par l'élève, puis 10 minutes de discussion avec le jury, et 5 sur le projet où le jeune devra expliquer son avenir, son projet d'études. On en reparle dans le journal de 8 heures. Que faut-il comprendre du bilan des décès et des contaminations au coronavirus? 242 décès supplémentaires annoncés ce matin par la commission de la santé de la province centrale du Hubei, épicentre de l'épidémie. C'est de loin le chiffre le plus lourd enregistré en 24 heures depuis que la crise a démarré en décembre. La Chine vient de changer sa méthode de détection, d'où une possible sous-estimation de la gravité de l'épidémie. On en reparle tout à l'heure à 7h30. En France, 2 des 11 patients infectés sont sortis de l'hôpital. Ils sont guéris. Par ailleurs, les rapatriés de Wuhan, mis en quarantaine il y a près de 2 semaines et hébergés à Carry-le-Rouet, vont pouvoir regagner leur domicile demain vendredi, annonce faite hier soir par le directeur général de la Santé, Véronique Julia.
Les deux patients guéris sont un couple, un homme de 31 ans et une femme de 30 ans, originaire de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, et arrivés en France le 18 janvier. Ils font partie des tout premiers cas diagnostiqués en France le 24 janvier. Ils étaient depuis hospitalisés à l'hôpital Bichat à Paris. L'homme au 7e jour de ses symptômes s'était un peu aggravé. Il a dû passer quelques temps en réanimation, mais sans que son état ne soit trop inquiétant. Finalement, donc, après quasiment 3 semaines d'hôpital, le couple a une charge virale négative. Ils sont sortis souriants et satisfaits de leur prise en charge, a précisé le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui explique le protocole observé pour ce couple. Ce sera le même pour tous les patients avant de leur rendre leur liberté.
Ce sont des personnes qui n'ont plus aucun symptôme, qui n'ont plus de fièvre, qui n'ont plus de symptômes respiratoires. Et par ailleurs, comme ils sont surveillés sur leur charge virale, la présence de virus, on exige aussi qu'il y ait 2 tests négatifs à 24 heures d'intervalle.
Après ces 2 sorties, restent 9 patients hospitalisés en France, 1 à Bordeaux, 3 à Paris, plus les 5 Britanniques contaminés en Haute-Savoie. D'autres sorties parmi les premiers cas devraient suivre dans les jours qui viennent. En revanche, l'octogénaire chinois hospitalisé à Bichat est toujours dans un état sévère. Par ailleurs, les 180 personnes arrivées de Chine dans le premier avion de rapatriement le 31 janvier sortiront demain, suivies dimanche par celles qui étaient arrivées le 2 février. Elles auront fini leur quarantaine, les mesures de confinement seront levées et leur suivi sanitaire sera définitivement terminé.
Véronique Julia, elle veut un enfant de son mari décédé en juillet dernier. Le tribunal administratif de Rennes doit se prononcer aujourd'hui. Le couple avait stocké des embryons et des gamètes dans les centres hospitaliers de Rennes et de Caen. Et aujourd'hui, la veuve souhaite les récupérer pour tenter une PMA à l'étranger. Mais la loi française interdit cette procédure, une loi complètement dépassée, selon son avocat David Simon.
En France, la loi est très claire, on n'a pas le droit. Ce qui pose d'ailleurs une vraie question éthique et morale, puisque dans quelques mois, dans quelques semaines même, la loi bioéthique devrait autoriser la PMA pour les femmes seules. Donc une femme seule pourra utiliser des gamètes d'un donneur anonyme pour devenir enceinte. Mais par contre, une veuve n'aura pas le droit d'utiliser les gamètes de son mari, ou pire encore, des embryons déjà conservés, pour fonder un projet parental qui aurait été construit à deux. Il y a une contradiction qui me semble de moins en moins tolérable dans la construction des lois bioéthiques là-dessus. Je pense qu'il faut entendre la demande de ces femmes, les accompagner et puis, encore une fois, aller vers une évolution de la jurisprudence ou de la législation sur cette question.
Maître Simon, au micro de Nina Valette. Une affaire de match de foot truqué. Hier, devant le tribunal correctionnel de Paris, un ancien joueur de Fréjus Saint-Raphaël a été condamné pour avoir contribué à faire perdre son équipe en 2014. C'était lors d'un match de National 3e division au bénéfice de parieurs toujours inconnu, Vincent Pellegrini.
Ce 9 mai 2014, l'équipe de Colomiers reçoit Fréjus Saint-Raphaël. Après 20 minutes de jeu, les Colomiers ramènent 4-0. Matarfal a marqué contre son camp et son gardien Dominique Jean-Zéphirin est d'une étonnante passivité sur les autres buts. Score final 4-1. Quelques jours plus tard, la Fédération française est alertée par la société Sport Radar, chargée de surveiller les paris sportifs dans le monde. Près de 30 000 euros ont été misés sur ce match en Thaïlande, somme tout à fait inhabituelle pour une rencontre de 3e division. La fédération décide de porter plainte. Peu après, plusieurs joueurs de Fréjus Saint-Raphaël ont confié que leurs 2 coéquipiers leur avaient proposé de lever le pied sur certains matchs en échange d'argent. Pendant l'enquête, les 2 prévenus ont admis avoir été approchés par des interlocuteurs menaçants pour truquer des matchs, mais qu'ils auraient refusé. Hier, Matarfal, qui était absent de l'audience, a été reconnu coupable de corruption passive. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer une activité dans le sport.
Vincent Pellegrini.
Il est 7h10, Laurence. C'était il y a 3 mois exactement. Les Vénitiens avaient à peine dormi.
Beaucoup avaient passé la nuit à vider leurs habitations. Leur magasin de l'Acqua Alta qui avait envahi Venise dans la nuit du 12 au 13 novembre l'ont été montés jusqu'à 1m87, à peine 7 cm en dessous du record absolu d'1m94. C'était en 66. Des dégâts énormes, notamment l'un des lieux emblématiques de Venise, la basilique Saint-Marc, et sa crypte notamment totalement inondée. D'habitude fermée au public, Bruce de Galzin a pu la visiter et constater les dégâts 3 mois après. Reportage.
Les colonnes et les murs roses et beige, l'arche qui protégeait les reliques de Saint-Marc ne semble pas porter de stigmates, car on ne voit plus les dégâts à l'œil nu. Mais on peut les toucher. Caterina Sopradassi est guide, elle nous décrit le travail délicat des restaurateurs de la crypte.
Ils sont en train d'utiliser des matériaux pour désaliniser les colonnes et les murs aussi, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des briques. Et vous voyez que si on touche, on sent vraiment la brique très friable. Là voilà, le sel commence à ronger l'intérieur des murs.
L'eau salée est entrée par l'arrière de la basilique, par une petite fenêtre emportée par la force du courant. Des travaux sont en cours pour renforcer cette partie, mais l'administrateur de la basilique Saint-Marc, Pier Paolo Compostrini, veut également construire une barrière imperméable en verre transparent autour de la basilique.
On lance ce projet parce qu'on est exaspéré devant la lenteur des autres projets. Si on avait eu le Mosè l'année dernière, il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé. Je peux vous assurer qu'être ici et voir l'eau à plus d'un mètre au niveau de la taille, cela fait pleurer.
Les travaux devraient débuter le mois prochain pour que la barrière soit construite avant l'automne, la période des marées hautes. À Venise, Bruce de Galzin, France Inter.
Un Picasso pour 100 euros, ça vous dit? C'est que ce que propose une loterie caritative au profit de l'ONG CARE. 200 000 tickets sont mis en vente pour gagner une toile de Picasso dont la valeur est estimée à 1 million d'euros. Explication d'Isabelle Pasquier.
Cette toile de Picasso sera peut-être bientôt au-dessus de votre canapé. C'est une nature morte de 1921 qui représente un journal et un verre d'absinthe. En 2013, pour la première édition de cette loterie, c'est un jeune Américain de 25 ans qui a gagné un tableau du maître du cubisme. Et l'idée de cette opération revient à la productrice de télé Perry Cochin.
Nous avons été voir le plus grand collectionneur de Picasso au monde, qui est David Namad, en disant voilà, on a une bonne cause, on voudrait un tableau qui vaut à peu près 1 million. Et il nous a dit ok, et il a avancé le tableau. En fait, l'idée c'est qu'au moment où on fait le tirage au sort, on récolte toutes les sommes qu'on a eues, et puis on ira payer le tableau. Et ensuite, tout l'argent qui reste va à CARE, qui va apporter de l'eau propre à 200 000 personnes en Afrique. À Madagascar, au Cameroun et au Maroc.
Tout sourire, regard clair, Johanna Chevalier vient d'acheter un ticket, mais pas seulement dans l'espoir de posséder un Picasso.
J'avais déjà participé à la première session d'un Picasso pour 100 euros. Je n'avais pas gagné, ce qui ne me démotive absolument pas, bien au contraire, parce que je trouve que bon, c'est formidable de pouvoir gagner un Picasso, évidemment, mais je trouve surtout que la cause est formidable.
En ce moment, le tableau est exposé au Musée Picasso à Paris. Tirage au sort donc le 30 mars. Chez Christie's.
Et pour participer, le site internet unpicasso100euros.com.
Merci Laurence Thomas.